Bonjour, le département valaisan de la sécurité des affaires sociales et de l'intégration refuse d'accorder une interruption de peine à Bernard Rapa. Pour le département, le processus de réalimentation ne nécessite pas une interruption de peine, nous dira dans un instant Claude Desfagots en direct de Sion. Les églises neuchâteloises vont perdre 1,5 million de francs suite à la suppression par Philippe Maurice de l'impôt ecclésiastique. Les responsables menacent de devoir supprimer des prestations comme les services funèbres. Nous ferons le point avec notre correspondante à Neuchâtel, Anouk Henry, et nous recevrons le président du conseil synodal de l'église réformée évangélique neuchâteloise, Gabriel Bader. Toujours dans le canton de Neuchâtel, les obsèques de la jeune Marie assassinée la semaine dernière à Peseux auront lieu cet après-midi. Dans le lycée de la jeune fille, des espaces de parole sont à la disposition des élèves et du corps enseignant, comme vous l'entendrez dans le reportage de Virginie Pilon. Vivre avec le sida, découvrir sa maladie, l'annoncer à ses proches, lutter contre les effets secondaires de la trithérapie, toutes ces expériences vécues sont racontées dans le livre Histoire de VIH, publié par l'association genevoise PVA, Personnes vivant avec le sida. Anne Courvoisier-Fontaine a coordonné ce projet, elle sera notre invitée en fin de journal. De 20 à 25 cm de neige vont tomber ce soir, la nuit prochaine et demain sur toute la Suisse romande. Aujourd'hui, les températures seront comprises entre moins 5 et 0 degrés. Prévision météo complète de Pascal Bénard dans 30 minutes. Le département valaisan de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration reste ferme. Il a refusé d'accorder une interruption de peine à Bernard Rapa, Claude Desfagots.
Vous l'imaginez bien, ce refus était attendu et ne surprend pas la chef du département, Esther Weber-Kelbermatten, forte des précédentes décisions de la justice et de l'appui du Grand Conseil, a toujours dit vouloir rester ferme. Pour le département, le sort de Bernard Rapa appartient à Bernard Rapa lui-même. Dans une lettre personnelle, la conseillère d'État l'exhorte une nouvelle fois à mettre un terme à son jeûne. S'il accepte, il bénéficiera d'un accompagnement médical pour sa réalimentation et sa réadaptation. Par la suite, il exécutera sa peine dans un établissement valaisan. Esther Weber-Kelbermatten, qui se refuse à d'autres commentaires, se dit convaincue que Bernard Rapa veut vivre.
Et cette décision va faire l'objet d'un nouveau recours.
L'avocat de Bernard Rapa, maître Abba Neyman, se dit très déçu de cette décision. Il n'entend pas pour autant abandonner son client. Il déposera dès demain un nouveau recours au tribunal cantonal valaisan. Il s'appuie pour cela sur le recours des médecins genevois au tribunal fédéral, recours qui prouve qu'une réalimentation forcée est impossible. Dans le même temps, maître Neyman se dit très préoccupé par l'état de santé du gréviste de la faim. Selon lui, Bernard Rapa serait de son propre aveu dans un état euphorique, un état qui inquiète les médecins. Bernard Rapa, lui, en est à plus de 90 jours de jeûne.
Claude Desfagots en direct de Sion. Les églises neuchâteloises affrontent une grave crise financière. Philippe Maurice a annoncé la suspension de sa contribution ecclésiastique. C'est 1,5 million de francs qui va manquer dans les caisses des églises, reconnues dès 2010 déjà. Et c'est selon elle 10 à 20% de leur budget. Et Anouk Henry, les églises ont haussé le ton ce matin.
C'est un coup de grâce, déplore d'une seule voix l'Église catholique chrétienne, l'Église catholique romaine et l'Église réformée évangélique réunies ce matin en conférence de presse. Elles reconnaissent le droit de Philippe Maurice à ne plus payer, étant donné que l'impôt est facultatif, mais elles dénoncent vivement le caractère abrupt de la décision. Les églises regrettent d'avoir été mises, disent-elles, devant le fait accompli après 30 ans de contribution. De son côté, l'entreprise dit les avoir avertis en 2008 déjà. Les trois institutions disent avoir interpellé Philippe Maurice à plusieurs reprise sans avoir obtenu de réponse. Elles disent même avoir obtenu en juin l'assurance que le versement serait reconduit. Mais elles en veulent également à l'État. Elles l'accusent de les avoir écartés des discussions menées avec l'entreprise. Toujours selon les églises, le service des contributions les aurait informés au début de l'année de discussions en cours, mais en assurant que l'impôt serait versé. Les critiques visent aussi le manque de connaissance du dossier de la part du Conseil d'État. Chaque tentative d'obtenir des réponses a été infructueuse, déplorent les représentants des églises catholiques et réformées. Pour l'heure, elles n'ont pas de solution, mais elles menacent de supprimer des services fondamentaux, voire même de faire payer les prestations comme un mariage ou un enterrement.
Et à vos côtés, Anouk Henry, le président du conseil synodal de l'église réformée évangélique neuchâteloise, Gabriel Bader, bonjour.
Bonjour.
Vous accusez l'État et Philippe Maurice de vous avoir écarté des discussions sur les impôts ecclésiastiques. Sur quoi est-ce que vous vous fondez pour dire que vous avez été écarté, très clairement ?
Alors, on accuse pas d'un point de vue émotionnel. On constate un certain nombre de faits. Nous avons été informés que des discussions existaient entre les services de l'État et l'entreprise Philip Morris au sujet de la contribution ecclésiastique. À Neuchâtel, l'État étant séparé des églises, la question de la contribution ecclésiastique doit être traitée par les églises et ou en particulier au moins avec elles. Il est clair que autant l'entreprise Philip Morris que les services de l'État nous ont écartés de ces discussions sciemment et nous l'ont fait savoir.
Mais pourtant, Philip Morris, vous avez averti en 2008 déjà d'un possible retrait de cet impôt. Vous contestez avoir été averti ou ça n'était pas clair pour vous, très clairement ?
Non, nous avons toujours eu des discussions avec cette entreprise qui, depuis longtemps, a fait savoir qu'elle avait un certain nombre de difficultés. Nous avons toujours réussi à trouver des modalités pour que cette entreprise continue à reconnaître que nos services ne concernent pas seulement des activités religieuses, mais aussi un travail social ou d'accompagnement spirituel. Ce qui est très clair, c'est qu'en début d'année 2010, l'entreprise nous a clairement dit que les montants pour 2010 serait maintenu et qu'en juin encore, cette entreprise nous a assuré qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. La décision de Philip Morris a été prise entre juin et octobre 2010.
Vous avez dit en conférence de presse ce matin vouloir remettre les choses sur la table avec l'État. Concrètement, qu'est-ce que vous allez dire à l'État neuchâtelois ?
Alors, il faut dire d'abord que c'est le Conseil d'État qui nous a proposé d'élargir les discussions. Évidemment, ce qui nous préoccupe, nous, aujourd'hui, c'est que les personnes qui bénéficient de nos services d'intérêt public, qui sont souvent des services auprès de personnes en situation de fragilité, ces personnes puissent ne pas être laissées au bord de la route et puissent continuer à bénéficier de tels services. Donc, l'idée est de travailler avec l'État, mais pas seulement avec l'État, avec l'ensemble de nos partenaires, c'est-à-dire d'autres entreprises aussi qui nous soutiennent, d'autres types de partenaires, pour réfléchir aux finances de ces services, mais il est évidemment probable qu'il y a un certain nombre de ces services qui devront soit être diminués, soit même être abandonnés, ce que nous regrettons pour les usagers de ces services.
Diminuer, abandonner, c'est vrai qu'1,5 million, c'est une somme. Est-ce que ça met en cause toute votre survie ?
La question n'est pas la question de notre survie, la question est la question de notre rôle. Et les églises reconnues d'intérêt public par l'État entendent jouer un rôle qui ne se confine pas à leur propre vie communautaire, mais qui a des répercussions sur l'ensemble de la vie de la société. Et c'est pour ça que nous sommes intéressés à travailler avec des partenaires, parce que nous pensons que nous travaillons à des choses qui se ressemblent, n'est-ce pas ? Les entreprises participent aussi au tissu social de notre canton, et c'est ce type de partenariat qui nous intéresse et que nous voulons non seulement maintenir, mais voir progresser avec d'autres partenaires aujourd'hui.
Et on rappelle d'ailleurs qu'à Neuchâtel et à Genève également, ce sont des cantons où l'impôt ecclésiastique est d'ailleurs facultatif. Merci Gabriel Bader. Je rappelle que vous êtes le président du conseil synodal de l'église réformée évangélique neuchâteloise. Vous êtes invité par Anouk Henry. Bonne journée. Et on reste dans le canton de Neuchâtel où les funérailles de Marie débuteront cet après-midi à 14h précisément. La jeune fille de 19 ans a été assassinée par son ancien petit ami chez elle à Peuzeux mercredi dernier. Au lycée Jean Piaget de Neuchâtel où la jeune fille était en dernière année et où, selon nos informations, le meurtrier a été scolarisé. Et bien dans cette école, le drame a littéralement traumatisé élèves et professeurs. Une cellule de crise a été mise en place les premiers jours et des espaces de parole sont toujours à leur disposition. Voici le reportage de Virginie Pilot.
Bonjour. La vie scolaire reprend doucement son cours en ce début de semaine, mais dans les couloirs du lycée, l'ambiance est étrangement calme. Au premier étage, une bougie brûle sur une petite table. Un professeur est penché sur le livre de condoléances. Il ne souhaite pas s'exprimer, l'émotion est encore trop forte. C'est le directeur de l'établissement, Mario Castioni, qui nous reçoit.
On sent que l'atmosphère reste lourde, pesante. Les élèves sont encore très marqués par le drame qu'ils ont vécu et sont dans l'attente d'accompagner aussi leurs camarades lors de l'ensevelissement. Alors, à notre niveau, ça s'est passé beaucoup dans l'action puisque nous avons dû observer tout ce qui se passait, pouvoir réagir en fonction des réactions de tel ou tel élève, mais dans un climat de profonde tristesse. Et nous avons été, nous aussi, très marqués par cet événement.
Par une porte entrouverte, on aperçoit trois jeunes filles assises face à une adulte. C'est un lieu de parole. Les psychologues sont là pour aider élèves et professeurs. Ils sont très sollicités. Marc Thiébaud, chef du CAPES, le centre d'accompagnement et de prévention pour les professionnels des établissements scolaires.
Il y a des élèves qui vont être vraisemblablement, malheureusement, traumatisés par la violence de ce qui s'est passé. Ces élèves, on les invite à pouvoir rester en contact avec un psychologue, que ce soit le psychologue qui est intervenu à l'école ou que ce soit une autre personne.
Chaque cas est différent, évidemment, mais si on compare avec ce que vous avez eu à traverser comme situation de crise, puisque c'est l'une de vos missions, comment est-ce que vous qualifieriez celle-ci ?
Extrêmement grave, avec possible traumatisme, vu la violence de ce qui s'est passé.
Et le fait que l'auteur soit un jeune, lui aussi, est-ce que ça joue un rôle ?
Oui, c'est sûr. Et pour certains élèves, c'est là peut-être le plus difficile à vivre.
Peter Gasser, nous sommes ici en salle des professeurs au lycée Jean Piaget. Vous n'avez pas cours ce matin. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, le matin même, quand vous avez lu cette circulaire qui vous annonçait à la fois le décès puis les mesures mises en place pour y faire face ?
Je pense de façon très générale que l'école a bien réagi. Il y avait une information qui était destinée aux enseignants, il y avait une information qui était destinée aux élèves. Je pense qu'il faut intégrer cet événement tragique dans la vie scolaire. Il faut en parler. On en a déjà discuté, disons pas de façon approfondie, mais on voit que c'est une préoccupation des élèves de voir finalement il y a une vie sociale qui peut tourner vers le mal, qui peut changer la vie d'un jeune, mais qui peut aussi changer la vie, disons, d'une école.
Une école qui se remet lentement de ce terrible choc, d'autant plus terrible qu'elle sait que le meurtrier est, lui aussi, issu de ses rangs.
Le reportage au lycée Jean Piaget à Neuchâtel de Virginie Pilot, dans le canton de Neuchâtel plutôt. Le Conseil national a accepté ce matin de couper 134 millions de francs dans l'enveloppe de l'aide au développement prévue par le Conseil fédéral. L'UDC l'a emporté par 95 voix contre 92. C'est l'événement marquant du débat sur le budget 2011 qui s'est poursuivi ce matin au Conseil national, Pascal Jeannerat.
On savait le PDC et le PLR divisés sur cette grosse coupe dans l'enveloppe de l'aide au développement, une enveloppe globalement en hausse pour atteindre un objectif que s'est choisi le Parlement, atteindre d'ici 2015 un taux de 0,5% du PIB consacré à l'aide au développement. Alors la coupe a été votée, vous l'avez dit, par une très courte majorité, 95 voix contre 92, malgré les appels de la gauche et de certains démocrates chrétiens, appels parfois vibrants, comme celui, on l'écoute, de la tessinoise Chiara Simoneschi.
Monsieur Brönnimann, est-ce que vous vous rendez compte que la coupe de 100 millions va toucher, voire éliminer, des petits projets faits avec les populations les plus pauvres du monde pour procurer à celles-ci l'accès à l'eau ?
Appel resté vain aux oreilles de beaucoup de PLR, pas mal de PDC et d'une UDC unanime, l'UDC qui exige moins d'aide au développement et plus d'aide à l'agriculture. Mais c'est tout de même en vain que le Vaudois Jean-Pierre Grin a demandé une hausse de 6 millions de l'aide alimentaire en produits laitiers.
Les produits laitiers sont des aliments équilibrés et sains dont les populations sous-alimentées peuvent profiter. Et comme la Suisse est actuellement en surproduction en matière laitière, cela permettrait de résoudre en partie le surplus laitier de notre pays, tout en atténuant les problèmes de la faim dans notre monde.
Pas plus d'aide en lait, mais pas d'eau non plus. Mais cette coupe de 134 millions n'est pas définitive. Le dossier passera au Conseil des États et pourrait devenir l'un des feuilletons de cette session parlementaire. Car la gauche a menacé de refuser le budget si cette coupe est maintenue. Pour le socialiste genevois Carlo Sommaruga, le choix est clair.
Alors que notre pays est le moins endetté du monde industrialisé, qu'il se classe parmi les 10 pays les plus riches du monde, qu'il a réussi à dégager 1,4 milliard de bonis en 2009, il ne peut aujourd'hui, pour des raisons comptables, refuser de soutenir le crédit au développement et la position du Conseil fédéral.
Les raisons comptables, c'est notamment la couverture de cette dépense, le frein à l'endettement. Le débat est désormais engagé.
Et toujours sous la coupole, l'ouverture complète du marché postal est reportée. Suivant le national, le Conseil des États a biffé aujourd'hui la libéralisation totale de la révision actuelle de la loi. Permettre à la Suisse de renouer avec la croissance sera le principal objectif du Conseil fédéral l'an prochain. La présidente de la Confédération, Doris Leuthard, a présenté ce matin devant le Conseil des États la liste des grands travaux du gouvernement. De la stabilité du système bancaire à la politique de formation, en passant par les infrastructures ferroviaires, les assurances sociales ou encore les relations avec l'Union européenne, le Conseil fédéral ne va pas chômer en 2011, Christian Favre.
Oui, c'est une liste de préoccupations presque sans fin que présente le Conseil fédéral avec, au centre de ce catalogue, deux priorités. La première, permettre à la Suisse de digérer les effets de la crise économique en commençant par relancer la croissance, lutter contre le chômage et très concrètement lancer le « too big to fail » Bail, soit le plan d'action prévu pour limiter le risque des grandes banques sur l'économie. Deuxième point fort, l'assainissement des assurances sociales. Doris Lyotard n'a pas caché son inquiétude ce matin sur le blocage des révisions en cours de l'AVS, de l'AI ou de l'assurance maladie. Et puis le Conseil fédéral annonce également se retrousser les manches pour renforcer la formation, ouvrir davantage le marché de l'électricité, améliorer les mesures d'intégration des étrangers ou encore clarifier les relations entre la Suisse et l'Union européenne. Des mesures qui entrent dans la mise en œuvre du programme de législature, mais qui s'apparentent à un catalogue de bonnes intentions. En effet, cet exercice n'est pas pris très au sérieux par les parlementaires. La faute à l'absence de cadre contraignant qui permettrait d'évaluer si les objectifs énoncés en début d'année ont été réalisés.
Christian Favre en direct de Berne. La première génération de travailleurs immigrés arrivés en Suisse après la Seconde Guerre mondiale a atteint l'âge de la retraite. Aujourd'hui, ces retraités, originaires pour la plupart d'Italie ou d'Espagne, confrontent les institutions suisses à des défis nouveaux. Une conférence organisée aujourd'hui à Berne fait le point sur la situation sociale et sanitaire des migrants du troisième âge qui vivent en Suisse. Une conférence ouverte ce matin par la conseillère aux États libérales radicales argovienne Christine Egersegi. Christine Egersegi est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes également la présidente du Forum national Âge et Migration. Christine Egersegi, quels sont les besoins spécifiques pour les migrants qui arrivent à l'âge de la retraite aujourd'hui ?
D'abord, il faut prendre conscience que c'était une génération qui a contribué beaucoup à notre développement économique, à notre développement social. Et maintenant, ils sont entre deux sièges. Ils ne sont ni tout à fait italiens, espagnols, portugais et même pas suisses, parce que leurs enfants vivent ici, leurs petits-enfants, et ça leur pose des problèmes.
Et ces immigrés, justement, italiens ou espagnols, on le sait, ont beaucoup travaillé sur les chantiers, ont eu des métiers pénibles. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont des rentes suffisantes pour vivre dignement, selon vous ?
Ils ont leur rente, mais dans la plupart des cas, ils ne savent pas qu'ils ont droit aux prestations complémentaires. Et là, nous trouvons, il faut le faire transparent, il faut les aider.
On parle souvent de ces migrants qui retournent finalement à l'âge de la retraite, souvent dans leur pays d'origine. Est-ce que c'est un peu le cas ? La majeure partie d'entre eux sont partis ou sont-ils restés en Suisse ?
C'est 50% qui retournent dans leur patrie où ils sont nés et l'autre moitié reste ici.
Selon vous, Christine Egersegi, est-ce que la Suisse a suffisamment exprimé sa reconnaissance à cette génération d'immigrés qui a contribué au développement économique dont vous parliez tout à l'heure ?
Non, je trouve, et mon association est convaincue, que c'est nécessaire une fois de montrer ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont contribué énormément à notre bien-être. Par exemple, lorsqu'on baissait l'âge de la retraite des femmes dans les années 54 et 63, c'était parce que le fonds de l'AVS était plus que rempli à cause de tous ces ouvriers qui ont contribué à ça. Et une fois, il faut montrer ce que les migrants ont fait envers notre pays et être un peu reconnaissant aussi.
Et vous,
c'est nécessaire.
Et vous en discutez d'ailleurs à Berne aujourd'hui toute la journée. Je vous remercie Christine Egersegi. Je rappelle que vous êtes conseillère aux États libérales radicales argovienne et vous êtes aussi présidente du Forum national Âge et Migration. Vous répondiez à Agnès Schenker. Bonne journée.
Merci pareillement.
Le 12-30, Natacha von Kutzum.
L'Iran accepte de reprendre les négociations sur son programme nucléaire controversé avec les grandes puissances. Les discussions auront lieu la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé ce matin une porte-parole de l'Union européenne. La Chine pourrait lâcher la Corée du Nord, devenue pour elle un allié encombrant. C'est l'une des révélations faites par le site Wikileaks. Il laisse entendre que Pékin pourrait s'accommoder d'une péninsule coréenne réunifiée. La Chine accueille d'ailleurs aujourd'hui un émissaire japonais et deux Nord-Coréens pour tenter de détendre la situation après le bombardement par Pyongyang d'une île sud-coréenne la semaine passée. À Pékin, Alain Arnaud.
Le programme nucléaire nord-coréen est très embêtant, a déclaré l'an dernier l'ambassadeur de Chine au Kazakhstan, propos rapportés par Wikileaks. Le diplomate a ajouté que la Chine espérait qu'une réunification pacifique aurait lieu à long terme. Un autre haut responsable chinois a estimé que la Corée du Nord est allée trop loin en procédant à son second essai nucléaire. Quant à l'ex-vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, il est cité pour avoir dit que les dirigeants du Parti communiste chinois ne considèrent plus la Corée du Nord comme un allié utile ou fiable et qu'une partie du pouvoir chinois serait prête à renoncer à cet état tampon qu'est la Corée du Nord. Enfin, WikiLeaks laisse aussi entendre que Pékin a beaucoup moins d'ascendant sur Pyongyang qu'on ne l'imagine habituellement. Actuellement, la Chine tente de calmer le jeu par la diplomatie en proposant des pourparlers à 6. Mais la Corée du Sud, comme les États-Unis, ont repoussé l'idée chinoise et le Japon se montre très réticent. Quant aux deux émissaires nord-coréens, on imagine Pékin leur passer un savon. Mais ça, même avec WikiLeaks, on ne le saura jamais. Alain Arnaud, Radio Suisse Romande, Pékin.
Les catastrophes naturelles et techniques dans le monde ont déjà causé cette année la mort de 260 000 personnes, soit le niveau le plus élevé depuis 1976, selon une statistique provisoire publiée aujourd'hui par le réassureur zurichois Suisse Re. Le bond du nombre de morts s'explique par le tremblement de terre survenu en Haïti. Les catastrophes ont provoqué des dommages économiques de l'ordre de plus de 222 milliards de francs. Et justement, il y a près d'un mois et demi, le Sénégal a frété un avion pour aller chercher à Port-au-Prince 163 étudiants haïtiens. Une action humanitaire voulue par Abdoulaye Wad, le président sénégalais. Cette initiative avait suscité la polémique, les étudiants sénégalais manquant de tout eux-mêmes. À Dakar, 69 élèves bénéficient du programme universitaire. Logés encore provisoirement, l'intégration semble finalement se faire. Au Sénégal, un reportage d'Aurélie Fontaine.
Dans cette chambre universitaire, il y a comme un air d'Haïti. La musique est celle d'un chanteur créole et les quatre étudiants présents prennent ensemble le refrain. La pièce est petite, il y a deux élèves par chambre, le lavabo fait aussi office d'évier et les douches dans le couloir sont vieillottes. Mais Ludmina Castin, étudiante dans le social, est heureuse d'être ici, même s'il faut s'adapter.
Le mode de vie est différent, la nourriture est différente, c'est bon, mais c'est différent. C'est pas comme notre pays, mais on s'y habitue quoi.
À leur arrivée, ça a été un peu le cafouillage. Certains étudiants sénégalais n'admettaient pas que les chambres universitaires soient attribuées aux Haïtiens, alors qu'eux-mêmes ont déjà de grosses difficultés à se loger. Des menaces d'expulsion ont été proférées, surtout pour montrer au gouvernement qu'il aurait dû tenir sa promesse de loger les Haïtiens dans un immeuble loué spécialement. À Dakar, certains Haïtiens n'ont pas encore commencé les cours. Au ministère des Affaires humanitaires, chargé des élèves, Bamba Ndiaye explique pourquoi.
Certains d'entre eux ont déjà commencé à travailler, ils sont inscrits. Pour les autres, ils ont demandé une réorientation. Pour d'autres, les tests ont jugé qu'il fallait les réorienter dans des filières qui répondent mieux à leur profil. C'est ce qui a amené que certains ne sont pas encore en classe.
Aujourd'hui, tout n'est pas encore réglé. Les étudiants haïtiens ne bénéficient pas du suivi psychologique annoncé, mais l'atmosphère est apaisée. C'est ailleurs dans le campus, près d'une mosquée, que les garçons résident. William Estama est étudiant en comptabilité dans une école privée. Pour lui, l'intégration se passe bien.
Les gens sont des gens de bien, ils sont sages, ils sont tolérants. Ils prouvent vraiment leur hospitalité. J'ai trouvé des amis là-bas, ils sont vraiment des amis de cœur.
L'entrée du bâtiment B3 de la cité Claudel, où sont logées beaucoup de jeunes filles, sert de point de rendez-vous pour se retrouver entre Haïtiens. Mais impossible de leur parler, ils ont reçu la consigne de ne pas répondre aux journalistes sans autorisation.
C'était Aurélie Fontaine au Sénégal. René Auffant, Étienne Barillier, Freddy Buache sont les lauréats des prix 2010 de la Fondation Lénart, respectivement directrice d'opéra, écrivain et fondateur de la Cinémathèque Suisse. Ces personnalités sont récompensées pour leur parcours exceptionnel et leur contribution au rayonnement culturel des cantons de Vaud et de Genève. Et ces prix sont dotés d'un montant de 30 000 francs chacun. À la veille de la journée mondiale de lutte contre le sida, un recueil de témoignages et de peintures sera publié sous l'égide de l'association PVA Genève, PVA qui signifie personne vivant avec le sida. Cet ouvrage est intitulé Histoire de VIH, histoire de vie, et vous avez coordonné ce projet. Anne Courvoisier-Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de notre studio de Genève. Des malades, des proches de malades, aussi des médecins qui s'expriment dans ce recueil. Est-ce que c'est un exercice d'écriture et de lecture qui a permis à certains de participants de se libérer d'un poids, de pouvoir parler de leur vécu, de la maladie?
Absolument. Pour certaines personnes, cet exercice a été plutôt thérapeutique. Par contre, pour d'autres personnes, ça a été plus difficile et c'était difficile de remuer comme ça le passé.
Une souffrance notamment parce qu'il faut raconter le jour où toute la vie a basculé, toute sa vie change en fait. Hein.
Ça, en partie, c'est clair, mais aussi simplement toute cette histoire de sida, c'est quelque chose de très intime. Donc, on rentre forcément dans les détails de sa vie intime qui sont pas forcément faciles à raconter.
Et pour certains, à votre avis, c'était aussi une forme de courage. Il fallait prendre sur soi pour pouvoir participer à votre projet.
Je pense que pour beaucoup de personnes, il a fallu beaucoup de courage. Du reste, certains de ces témoignages sont signés par des pseudos. Les personnes n'ayant pas voulu se risquer d'être reconnues.
Donc justement, c'est parce que toujours le tabou en 2010 sur la maladie, alors.
Effectivement, les tabous existent toujours énormément, surtout parce que ces tabous concernent les modes de transmission et ça n'a pas changé malheureusement avec le temps.
Comment est-ce que vous avez sollicité, choisi les témoignages au sein de l'association? Est-ce qu'il y a eu full opportun, je veux dire, les gens se sont bousculés, ou au contraire, vous avez plutôt dû aller chercher vraiment les gens pour qu'ils s'expriment?
On a plutôt dû aller chercher les gens et puis on n'a pas eu énormément de temps pour réaliser ce projet. On avait un temps assez limité, ce qui fait que les personnes qu'on a contactées, c'est des personnes de notre association, des médecins. Il y a aussi le témoignage d'une pasteur. C'est essentiellement des personnes séropositives, mais également des accompagnants. Et on aurait voulu inclure d'autres témoignages, mais ça se fera peut-être une autre fois.
Et puis il y a aussi ceux qui parlent de l'être qui est disparu, évidemment, qui est décédé. On sent une certaine sérénité. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse dans les messages écrits par ces différentes personnes.
Je pense que les personnes qui ont perdu un être cher, ils pensent avec beaucoup de tendresse, effectivement. Et une des choses importantes quand on accompagne quelqu'un dans ces conditions, c'est d'apprivoiser la mort. C'est quelque chose de très important.
Et puis on parle toujours, chaque année, quand on parle évidemment à l'occasion de la journée mondiale du sida, de cette maladie, on ne veut pas banaliser la maladie, mais il y a des traitements qui permettent aux gens de vivre évidemment de plus en plus longtemps. Il y a d'ailleurs une personne qui dit ceci dans votre livre, j'en appelle aux technocrates du sida, banalisation du politiquement correct oblige, nous ne mourrons plus du sida car notre virus est classé chronique. Est-ce que ça participe aussi à cette banalisation de la maladie ?
Oui, effectivement, j'ai posé la question à l'auteur de ce texte et je peux vous lire en deux mots ce qu'il m'a répondu. Il me dit ceci, c'est que cette maladie n'est pas chronique, on meurt toujours du sida car les traitements ne sont pas efficaces pour tout le monde. On ne connaît pas les effets secondaires sur les organes internes, foie, pancréas, rein, etc. Le mot chronique est un emballage à objectifs politiques, ces mêmes politiques devraient pouvoir pousser les conséquences de cette décision de chronique au droit des PVA, perte de gains, assurance, vie, crédit, etc. Toutes choses qui sont interdites aujourd'hui aux séropositifs.
Et d'ailleurs, c'est très très bien expliqué dans le livre. Il y a aussi beaucoup de personnes qui expliquent d'ailleurs aussi les effets secondaires, par exemple des trithérapies. Avec cet ouvrage, au fond, quels étaient les objectifs que vous avez poursuivis avec ce projet? C'était de montrer la réalité, la vérité de la maladie, comment on la vit vraiment de l'intérieur?
Oui, je pense que c'est de montrer que malgré le fait que nous sommes maintenant en 2010, c'est vrai que c'est toujours pas facile de vivre cette maladie, à visage découvert ou non. Les effets secondaires sont toujours quand même assez lourds, même si finalement maintenant il y a de plus en plus de médicaments, de panoplies existantes, ce qui fait que c'est un petit peu plus facile. Mais la honte, la culpabilité reste et c'est ça qui est lourd pour les personnes séropositives essentiellement. Et que les droits, en plus des personnes séropositives, ne soient pas toujours
bafoués,
respectés.
Mais qu'ils soient reconnus. Voilà. Je vous remercie Anne Courvoisier-Fontaine d'être venue en parler de ce projet Histoire de VIH, préfacé par Ruth Dreyfus. Ça sera présenté ce soir lors d'une lecture vernissage au Théâtre de Poche de Genève. Anne Courvoisier-Fontaine, vous avez donc coordonné ce projet. Bonne journée à vous, merci.
À vous aussi, merci. Au revoir.
Un mot encore de la bourse suisse à la mi-journée. L'indice SMI est en baisse aujourd'hui 0,4%, 6369 points. La météo de Pascal Bénard.
Des voiles nuageux passent régulièrement au-dessus de la Suisse romande. Ce sont les signes précurseurs de la perturbation très active qui s'approche de nos régions par l'ouest. Avant son arrivée, les thermomètres afficheront des températures maximales de moins 4 à 0 degrés. Les premières précipitations tomberont tout de suite sous forme de neige et toucheront d'abord le bassin lémanique et le Jura entre la fin de l'après-midi et la soirée. La zone perturbée concernera toutes les régions au cours de la nuit. Météo Suisse a émis un avis d'intempéries de niveau 4 ou de couleur orange pour une durée de 24 heures, soit de ce soir à demain soir, valable pour l'ouest lémanique où on attend de 20 à 25 cm de neige durant cette période. Demain après-midi, les averses tomberont par intermittence et localement dans les régions de plaine sous forme de neige et de pluie mélangées. Les températures à basse altitude évolueront mercredi de moins 3 degrés minimum à l'aube à des maxima proches de moins 1 degré. À 2000 mètres, on relèvera des valeurs de l'ordre de moins 5 degrés.
La météo avec la campagne de prévention vignette de ski du BPA, bpa.ch.
Demain, dans le journal du 1er décembre de la mi-journée, nous recevrons le PDG d'Universal France, Pascal Nègre, à l'occasion de la sortie de son livre « Sans contrefaçon » paru aux éditions Fayard. Pascal Nègre, donc demain en direct dans le 12h30. Et puis Forum ouvre le débat ce soir avec cette question. La Suisse est-elle un pays d'extrême droite? Dès 18h, vous pouvez appeler le 021 318 16 16. Après le vote de dimanche, la Suisse est citée en exemple, notamment par le Front National ou autres mouvements d'extrême droite européens. Et Forum donc vous pose cette question ce soir entre 18h et 19h. Sur la première, il est 13h.